Merci d'écouter Fréquence Mistral avec l'Office de tourisme communautaire de la DLVA. Nous proposons des magazines sur les richesses et ressources du territoire. Les atouts sont nombreux, mais il faut aussi les préserver. C'est ce que font les personnes interviewées et les invités de ces émissions. Aujourd'hui, et en pleine chaleur, nous partons au frais dans les basses-gorges du Verdon en compagnie de François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous. Un relief et un cours d'eau moins accidentés qu'en amont, les basses gorges du Verdon ont des atouts particuliers. Ce vaste territoire d'eau et de grottes s'étire du bas du barrage EDF de Sainte-Croix jusqu'au lac d'Esparron de Verdon. Le promeneur comme le baigneur apprécie les basses gorges de Bodinard, Saint-Laurent ou Quinçon, comme les lacs de Montpezat, Lac Adenon, Quinçon ou encore Esparron. C'est aussi un territoire chargé d'histoire. Les premiers hommes s'y installent, notamment dans la grotte de la Bombonne, il y a 400 000 ans et au siècle dernier, dans les années 60. Un large programme d'électrification commande la construction de barrages hydroélectriques avec des retenues d'eau conséquentes qui serviront aussi à l'alimentation en eau, à l'irrigation des terres agricoles et qui aussi, et ça, les concepteurs ne l'avaient pas prévu, auront un attrait et un impact touristique conséquent, car aujourd'hui les basses-gorges accueillent des milliers de visiteurs, principalement en été, mais également hors saison, grâce à une nature préservée, un hébergement adapté. Cet espace désormais naturel est aussi à préserver et à protéger. Les basses-gorges du Verdon sont le sujet de notre magazine réalisé avec l'Office de tourisme communautaire de Durance, Luberon, Verdon, agglomération. Partons tous ensemble pour un territoire magnifique. Et avant d'accueillir nos invités et de développer l'action d'Électricité de France sur ces secteurs, ainsi que l'impact touristique des basses-gorges, écoutons un des acteurs du bord de l'eau. Éric Volontier est en charge de Verdon Électronautique, la base de bateaux électriques qui se trouve à Quinçon, à l'entrée des basses-gorges. L'interview est signée Olivier Mouly.
Éric Volontier, vous êtes propriétaire de Verdon Électronautique à Quinçon. Comme son nom l'indique, c'est du nautisme électrique.
Tout à fait, ce sont des bateaux électriques, uniquement des bateaux électriques. On en a 29, puisqu'on a un quota de bateaux à respecter.
Un quota qui est donné par qui ?
Qui est donné par la mairie, et avec l'approbation certainement du parc et des préfectures.
Parce qu'à Quinçon, il y a plusieurs bases ?
Alors, il y a une autre base sur Quinçon de canoë-kayak et de pédalo. Et sinon, de l'autre côté, on a la concurrence du Var, où là, on n'a pas les mêmes limitations en termes d'embarcation.
Vous êtes ouvert sur quelle période ?
Alors, normalement, on est ouvert de fin mars à début novembre. Cette année, bien sûr, avec les problèmes de coronavirus, on n'a ouvert qu'à partir du 30 mai et on sera ouvert toujours jusqu'à début novembre, sauf contre-ordre.
Quels sont les nouveaux protocoles que vous avez dû adopter pour vos prestations ?
On a mis, bien sûr, en place un sens de circulation. On essaie de faire porter maximum le masque à notre clientèle et pour nous, ça dépend. On essaie de respecter les distanciations sociales de minimum 1 mètre. On a mis ensuite du gel hydroalcoolique en entrée et à la sortie de nos installations. Et nos bateaux sont systématiquement nettoyés avec un karcher à eau chaude à 90 degrés. À chaque sortie de bateau, ils sont nettoyés et les gilets de sauvetage enfants et les gilets adultes portés sont désinfectés à l'aide d'un virucide.
Est-ce que vous avez constaté un changement du point de vue de la clientèle ?
À partir du moment où on a rouvert l'activité, on s'est rendu compte qu'on avait une clientèle locale très importante qui arrivait, en particulier les week-ends. Ça a été un effet massif dès l'entrée du déconfinement. Depuis, on retrouve une clientèle un peu plus de passage. Ce sont plus des vacanciers que des locaux maintenant.
Votre base est située dans un site exceptionnel, d'abord le Verdon, ensuite à l'entrée des Basses-Gorges. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas les Basses-Gorges.
Les Basses-Gorges, c'est magnifique parce que ça fait 9 km de navigable et ça rejoint le lac d'Esparron. Et dans ces gorges, tout le long du parcours, on peut voir des grottes qui ont été occupées dès l'époque de la préhistoire et qui ont un cachet certain. Et bien sûr, maintenant on est dans un site Natura 2000, site protégé, on ne peut faire que les voir en passant depuis 2019. Donc on peut uniquement accoster ou se baigner sur le lac d'Esparron et non pas dans les gorges. Au départ, de toute façon, la température de l'eau est très froide puisqu'on est au pied d'un barrage.
Vous êtes en aval du barrage de Quinçon, vous avez une petite partie navigable jusqu'au barrage ?
Non, on n'envoie pas les gens en direction du barrage, parce que quand il y a des lâchers d'eau, c'est assez fort, et ça ne prête pas beaucoup d'intérêt, surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'eau en allant vers le barrage.
Combien de temps faut-il pour faire l'aller-retour entre votre base et le lac d'Esparron?
Alors pour faire toutes les gorges aller-retour, il faut 3 heures. Après, la plupart des gens, ils veulent profiter de la baignade sur le lac d'Esparron, donc il y a des formules de 5 heures, voire des formules journée, qui permettent de faire toutes les gorges aller-retour, plus le tour du lac.
Quelles sont les mesures de précaution vis-à-vis de l'environnement que vous préconisez auprès de vos clients?
Nous, on le dit à tous nos clients, de ne pas accoster dans les gorges. Il y a certains endroits sur le lac où ils peuvent accoster. Ensuite, on prend des mesures interdisant, par exemple, les enceintes. Quand on voit des jeunes arriver prendre un bateau, on leur dit que les enceintes, ils restent dans les voitures pour les nuisances sonores. Tout ce qui est boué, engin de plage, qui tracte derrière, on leur demande de ne pas les prendre, de les laisser dans les voitures. Parce que ça aussi, c'est une nuisance. Ça perturbe aussi la circulation de la navigation dans les gorges. Et on demande aux gens, bien sûr, de remporter leurs déchets. On a les conteneurs au retour. Et bien sûr, tout ce qui est feu de camp, etc., tout ça, sont interdits.
Y a-t-il des patrouilles effectuées par le parc?
Alors, il y a les éco-gardes actuellement qui ont repris leurs activités et qui tournent régulièrement. Moi, je les vois passer très régulièrement sur les chemins de randonnée et également, quand ils le peuvent, en canoë et kayak, pour faire un peu des patrouilles de prévention dans les gorges.
Quand vous avez des bateaux électriques, il vous est arrivé de donner des coups de main pour quelques événements?
À l'époque, on avait l'autorisation d'avoir un thermique. Maintenant, ça a été interdit, on n'a plus qu'un bateau électrique en secours. Il nous arrive d'avoir quelques petits soucis avec nos bateaux, mais en général, ce sont des hélices cassées dans les rochers, la plupart du temps, quand on intervient. Et après, pour la collectivité, à l'époque, on a aidé quand, par exemple, il y a eu un éboulement qui s'est produit dans les gorges, où on a été mettre en place un système de balisage pour éviter que les gens s'approchent trop près de la zone dangereuse.
Vous vouliez revenir sur un point?
Oui, il y a un point qui me paraît un peu surprenant. Ça fait à peu près 10 ans, moi, que même un peu plus, 15 ans que je me bats pour qu'il y ait une certaine harmonie qui soit faite au niveau des basses-gorges concernant le nombre d'embarcations qui sont mises à disposition de la clientèle. Côté Alpes-de-Haute-Provence, on fait partie du parc naturel régional du Verdon et il est normal qu'on nous limite en nombre d'embarcations. Par contre, de l'autre côté, côté Var, la commune de Montméhan ne fait pas partie du parc naturel régional du Verdon. Ils autorisent un nombre considérable d'embarcations. Mon concurrent en face a plus de 190 embarcations à lui seul. Moi, j'ai 29 bateaux électriques. La différence, elle est incompréhensible. Mais c'est pas uniquement une histoire de concurrence déloyale, c'est une question de préservation des gorges et même de sécurité. Parce que plus il y a de monde dans les gorges, plus les accidents sont possibles.
Éric Volontier, comment peut-on vous contacter?
On peut nous contacter essentiellement par téléphone au 04 92 74 08 37. Notre site internet, c'est verdonelectronautique.com. On est en train de mettre en place un système de réservation par mail, mais qui n'est pas encore au point parce qu'on a tellement de choses à dire aux gens que c'est pas facile de le faire uniquement par mail. Et sinon, il faut se déplacer, venir sur place, on vous accueillera avec plaisir.
Éric Volontier, qui avec d'autres personnes a la chance d'habiter dans ce territoire privilégié, tout comme notre première invitée, Christine Rousseau. Bonjour Christine.
Bonjour.
Vous êtes en charge, vous, de l'office de tourisme à Quinçon, un magnifique endroit, et qui a commencé sa saison estivale. Première question, comment ça se passe actuellement?
Pour l'instant, tout se passe bien. On a plus de visiteurs que nous le pensions.
Donc les gens, visiteurs qui viennent de la région, je suppose?
Beaucoup de la région, effectivement. La région PACA, mais aussi Auvergne-Rhône-Alpes et les départements voisins.
D'accord. Heureusement, parce que c'est vraiment... on a vécu une période très particulière et le tourisme est confronté à une problématique vraiment aussi difficile actuellement. Vous êtes en charge de l'office de tourisme à Quinçon. En quoi ça consiste, votre travail sur ce territoire?
À bien accueillir les personnes qui se présentent à nous et leur donner les informations utiles pour passer un agréable séjour et découvrir le territoire en ayant les codes qui permettent d'adopter les bons comportements.
Quand vous dites les accueillir, ça veut dire les orienter vers des campings, des hôtels, des restaurants?
Tout à fait, leur proposer les hébergements qu'ils recherchent et aussi les activités, activités de pleine nature ou activités culturelles.
Vous êtes basé vous-même à Quinçon avec un outil très très particulier qui est géré par le département des Alpes de Haute-Provence, c'est le fameux musée des gorges de préhistoire, c'est ça?
Oui, musée de préhistoire. Tout à fait, musée de préhistoire des gorges du Verdon.
On peut rappeler ce qu'est ce musée, ce qu'on y trouve?
C'est un très grand musée, un des plus grands musées d'Europe, qui a pour thème la préhistoire. Donc en fait, on commence la visite par les temps les plus reculés et on termine à l'époque contemporaine. On a suivi ainsi toute la trace de l'évolution humaine dans la partie Haute-Provence.
Avec, je crois, en ce moment, un dinosaure qui a réalisé... un rhinocéros.
Un rhinocéros.
Qui a été réalisé par un plasticien actuellement et qui est en plastique rouge. rouge, enfin quelque chose d'assez curieux, à côté d'un rhinocéros laineux, donc de la préhistoire. On va rappeler quand même que sur ce territoire et à Quinçon même se trouve la grotte de la Bonbonne qui a accueilli les premiers basalpins. On
tout
va dire
fait.
Ça comme ça.
Il y a 400 000 ans.
Il y a 400 000 ans. Mais vous m'avez annoncé en commençant cette émission que malheureusement, actuellement, la grotte est fermée aux visites.
Tout à fait. Cette année, pour des raisons sanitaires, la grotte n'est pas visitable. Donc, vous avez une reconstitution dans le musée. Si vous voulez le visiter, vous pouvez avoir cette fameuse reconstitution. Tout comme à l'intérieur du musée, l'exposition temporaire qui avait pour thème le toucher, cette année, malheureusement, n'est pas visitable non plus.
Et non, on peut pas toucher, d'autant plus que on peut transmettre comme ça un virus qui nous a chamboulé la vie. Vous l'avez dit, vous donnez beaucoup d'informations aux visiteurs dans notre territoire. Est-ce que vous débordez par rapport aux basses-gorges du Verdon? Est-ce que vous leur proposez des choses sur Manosque, Fort-Calquier, Riez, par exemple,
oui,
un peu plus loin?
Oui, bien sûr. On les oriente en fonction de leurs besoins, à découvrir le plateau de Valensole, à découvrir la commune de Riez, le pays manosquin, le pays d'Oraison, et puis bien sûr toute la partie Grand Canyon du Verdon, puisque les gens viennent quand même avec ce lien avec le Verdon.
Vous avez parlé des animations tout à l'heure, Christine. On sait que, par exemple, au musée de préhistoire, il y a des animations qui s'adressent notamment aux enfants. Et ça, c'est important parce que, on vient en Provence non pas pour bronzer et surtout pas bronzer idiot, mais on vient aussi pour se cultiver. Et
tout
les enfants se cultivent de manière intelligente, intéressante de cette manière.
Oui, tout à fait. Alors, les animations, par contre, au village préhistorique n'ont pas lieu non plus cette année.
Aïe, aïe, aïe.
Oui. Par contre, ils ont mis en place un petit parcours découverte qui permet en fait d'aller à l'accueil du musée, de demander une petite carte. Et grâce à cette petite carte, il y a un petit jeu à énigmes qui permet de trouver l'emplacement du village préhistorique reconstitué.
Alors, si vous avez prévu de venir dans la région cette année pour visiter la Bonbonne ou les activités, c'est difficile, mais on a trouvé visiblement des routes de secours importantes, intéressantes. Et puis l'année prochaine, évidemment, tout va repartir comme si de rien n'était et il faut aller dans les basses gorges du Verdon. Christine, vous restez avec nous pendant cette émission et puis on parlera avec vous de votre activité dans un instant aussi. Vous savez que l'activité touristique et économique du territoire est forcément tributaire de l'action des élus. Guy Burle est le maire d'Esparron de Verdon, un village qui s'est structuré autour d'un lac de plaisance aux eaux limpides et aux nombreuses criques restées sauvages. Guy Burle.
La particularité d'Esparron, c'est qu'on est un village qui se multiplie par 10 pendant l'été, avec tous les problèmes que ça peut poser et toute l'organisation qu'il faut mettre en place pour que tout ça puisse s'harmoniser. En accord avec le parc du Verdon, les éco-gardes qui assurent une surveillance et surtout une information du public, des renforts de gendarmerie et de pompiers qui sont sur place, et puis la mairie qui met en place ce qu'on appelle notre système d'été, des personnels d'accueil sur les parkings pour orienter les personnes, des ASVP aussi pour faire respecter les stationnements, qui est le gros souci de la commune. On a peu de place, mais le lac aussi n'est pas extensible, et si on veut garder un aspect un peu naturel et sauvage, comme on dit, l'Esparron, on peut pas accueillir toute la planète chez nous. C'est vrai que Esparron, c'est beau, mais ça se mérite. On a des places limitées, hein. C'est comme dans un cinéma, quand il y a 300 places, il y a 300 places, on peut pas mettre 350. Donc si on veut respecter un peu tout ça, il faut que chacun y mette du sien. Sur le lac lui-même, donc on a une baignade surveillée aussi, on assure pendant tout l'été une surveillance sur l'eau avec des patrouilles, notamment avec les éco-gardes, l'ONF aussi qui participe, la gendarmerie qui est présente, notamment sur le risque incendie. On a des gros soucis là-dessus et donc là on est assez intransigeant et il faut l'être. Esparron a vécu 2 incendies graves. Voilà, aujourd'hui les traces s'effacent, ça se voit un peu moins, mais il ne faudrait pas que ça revienne tout ça.
Comment faites-vous passer les messages auprès des visiteurs?
En tout premier lieu, on a les éco-gardes. Ils sont là pour informer. Tous les prestataires de services aussi le font, dans le cadre, dans la location d'un canoë, d'un bateau électrique, etc. On amène cette information qui est les dangers de l'eau et puis du soleil. Et puis après, les restrictions qui sont notamment le feu en période d'été. Et puis maintenant, c'est toute l'année, puisque les risques augmentent. Après, on a les détritus, comme d'habitude, etc. Il faut toujours sensibiliser. Il faut quand même du contrôle, il faut quand même de l'information en permanence. On s'en est aperçu, on s'est un peu relâché au mois de juin après le déconfinement. Beaucoup de gens sont arrivés. Là, il n'y avait pas de personnel pour informer tout ça et ça a été un peu l'anarchie. Il faut reconnaître ce qui est.
En termes d'hébergement, vous avez une hôtellerie, des campings?
Sur Esparron, on a 7 campings, plus un camping à la ferme aussi. Il y a aussi un parc de gîtes et de locations saisonnières aussi important sur la commune. On avait la proximité de Gréou et la station thermale aussi, donc Esparron accueille quand même beaucoup de monde. L'apport touristique sur Esparron, il y a quelques commerces qui vivent aussi sur la saison, qui essayent de rester ouverts plus longtemps que nos 3 mois ou 4 mois d'été. Notre but aussi, c'est qu'on puisse étendre cette saison. C'est vrai que nos revenus sur la commune, avec tous les frais que ça impose, la contrepartie, c'est le parking payant. Et puis, on va essayer aussi peut-être de mutualiser peut-être nos frais avec nos voisins. Dans le cadre de l'aglo et de la compétence tourisme qui est de l'aglo, on est aussi un point d'accueil pour les gens qui résident dans les communes aux alentours. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on partage. Sur le lac d'Esparron, on est en partie en frontière avec le Var et on a de l'autre côté du Verdon une enclave du 04 qui s'appelle le Quartier. On est en accord avec notamment la commune de Quinçon et de Saint-Julien pour s'organiser sur notamment les locations, le nombre d'embarcations sur le lac. On veut aussi essayer de maintenir et que ça soit pas une trop grosse affluence, notamment dans les basses gorges. Je pense qu'en pleine période estivale, on arrive un peu à saturation. Il faudrait pas qu'on aille beaucoup plus loin si on veut garder, comme je disais avant, ce côté naturel d'Esparron. Alors il y a d'autres communes qui sont aussi frontalières, qui ne jouent pas trop le jeu, mais c'est un problème qu'il va falloir aborder. Et Esparron, ce n'est pas que le lac, on a aussi tout un patrimoine, donc le château, le vieux quartier de Vierre au château. On a un jardin qu'on appelle le jardin de Vierre, qui est ouvert au public, qui est éclairé la nuit. Puis on a l'église. Et puis tout le village, qui est quand même remarquable pour la partie, je dirais, des ailes de saison, où on peut accueillir là des visiteurs sur ce thème-là, avec aussi nos sentiers de randonnée, nos sentiers VTT. On fait partie de la grande boucle des circuits VTT du Verdon. Il faut qu'on travaille encore là-dessus pour développer ces ailes de saison, et c'est ça qui va permettre de faire vivre nos commerces et d'avoir, notamment pour les habitants, des commerces qui soient ouverts toute l'année et qu'on ne soit pas qu'une station d'été qui est fermée après. C'est tellement beau l'après-saison. Après, on peut aussi poser ses vacances hors saison, on n'est pas obligé de les poser en juillet-août.
Guy Burle sur les antennes de Fréquence Mistral, retour en plateau, et nous parlons évidemment des basses gorges du Verdon. Et sans électricité de France, pas de lac d'Esparron ou de Sainte-Croix, ni plus haut Serponçon. Un vaste programme d'aménagement hydraulique a été ouvert en France dans la seconde moitié du XXe siècle, à la clé. D'abord la production d'électricité dans un secteur favorable, mais aussi le stockage de millions de mètres cubes d'eau pour l'alimentation ou l'irrigation. Les concepteurs des barrages et lacs artificiels n'avaient pas franchement envisagé le volet touristique qui est une richesse du territoire. Avec nous pour évoquer l'aspect électrique des basses gorges, Alexandre Guillot, d'EDF. Il est coordinateur de l'usine de Vinon-sur-Verdon. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
On peut rappeler quel est votre secteur d'activité ?
Oui, moi je travaille donc sur Vinon-sur-Verdon, Quinçon et Sainte-Croix. Dans notre jargon, on appelle ça un groupement d'usines.
Alors Vinon-sur-Verdon, voilà. C'est en aval.
C'est l'aval. Ensuite, vous avez Quinçon et Sainte-Croix pour l'installation la plus en amont.
Vous avez combien de barrages sur cet endroit ? Combien de points de production électrique ?
Alors pour notre secteur, on a 3 barrages, 3 usines. Et puis vous avez un peu plus haut sur le Verdon, vous avez le barrage de Castillon et le barrage de Chaudanne, avec respectivement une usine pour chaque barrage.
C'est un élément clé, la force hydraulique pour la production d'électricité en France. Oui. Dans notre région, et enfin en tout cas sur les Basses-Gorges, ça représente combien de production ?
Écoutez, moi ce que je peux vous dire, c'est que sur le Verdon, l'ensemble des 5 centrales produit annuellement à peu près l'électricité nécessaire à 195 000 personnes. Et pour vous situer, c'est un peu plus que l'ensemble du territoire des Alpes d'Haute-Provence. Donc c'est assez conséquent.
C'est conséquent et en même temps ça nous permet d'avoir une certaine indépendance énergétique. On en parle beaucoup en ce moment.
Oui.
Et puis on n'évoquera pas la question des barrages, de l'avenir des barrages, qui est une question extrêmement sensible en ce moment, vous le savez.
Bien sûr.
Vous avez plusieurs activités en fait, puisque EDF gère les cours d'eau comme les barrages des basses gorges. Il y a toute une activité qui est liée à, je l'ai dit, l'agriculture, l'alimentation. Comment ça se passe d'articuler tout cela ?
Eh bien, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ces installations, à la base, comme vous l'avez dit en préambule, elles étaient faites pour la production électrique. Et très vite, le tourisme, la gestion de l'eau et l'alimentation est devenu prépondérant. Aujourd'hui, nous gérons l'eau et nous gérons les besoins en agriculture grâce à ces retenues et par les programmes qu'on peut avoir au fil des années par rapport à la pluviométrie. En gros, nous avons un peu plus d'un quart, par exemple, sur le Verdon, qui est utilisé pour les besoins d'agriculture et en eau potable. Et nous avons aussi plusieurs partenaires, plusieurs sociétés qui travaillent dans ce milieu, comme par exemple la société de Canal Provence, qui prélève directement de l'eau dans la retenue de Gréou et qui approvisionne l'eau potable pour des communes comme les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse. Donc c'est en étroite collaboration avec les partenaires locaux, puisqu'il faut à la fois gérer la production électrique, mais aussi l'enjeu sécurité et ce partage de l'eau qui est si cher à la province.
On va parler tout à l'heure de la sécurité, justement. Ouais. Pour ce qui est de l'alimentation en eau et de cette présence de ces retenues d'eau sur le territoire, c'est un élément essentiel parce que le département des Alpes de Haute-Provence, comme celui des Hautes-Alpes, le département voisin, ne souffre pas, entre guillemets, de la sécheresse. C'est grâce à ce réseau ?
Oui, tout à fait. Vous avez entièrement raison. Grâce à cette gestion de l'eau et l'expertise que nous avons depuis des dizaines d'années maintenant, on peut dire et c'est que l'agriculture a été mise à l'abri de la sécheresse, et notamment avec ce volume d'eau, c'est assez conséquent, hein, c'est un peu plus d'un quart du stockage d'eau sur les lacs de Sainte-Croix et Castillon, c'est assez conséquent. Ouais.
Donc c'est important, et quand vous voyez le niveau d'eau baisser, c'est tout simplement qu'on a besoin d'eau.
Tout à fait.
Et qu'à un moment, il faut faire baisser ces niveaux. Alors justement, il existe pour cela, Alexandre Guillaume, les lâchers d'eau.
Oui.
Des lâchers d'eau qui sont décidés par qui, comment, et comment est-ce que vous informez la population et les élus, notamment ?
Alors, pour tout ce qui est programme de production, nous avons chaque année des emplois saisonniers de petits jeunes qu'on appelle les hydroguides qui parcourent le territoire de la Durance et du Verdon, donc qui portent un message de sécurité et aussi de respect de l'environnement. D'ailleurs, dans certains secteurs du Verdon, il y a un partenariat qui est fait avec le parc régional du Verdon où ils parcourent simultanément certaines zones pour porter ces messages. Nous avons aussi des panneaux de signalisation pour préciser les dangers, les risques encourus et l'évolution que peut avoir les cours d'eau selon les turbinés ou les lâchers. Nous avons aussi beaucoup de communication à travers tous les partenaires locaux pour rappeler et insister sur les programmes de production, les différences que vous pouvez avoir au bord d'une rivière, parce qu'aujourd'hui vous avez un beau soleil, pas de nuages à l'horizon, vous avez un certain niveau d'eau dans la rivière, vous pouvez revenir demain et vous avez un autre niveau d'eau. Donc pour les gens qui sont pas avertis, ça peut être déstabilisant, mais c'est comme ça que nous encadrons ces risques et ces lâchers d'eau au quotidien.
On comprend l'importance de la régulation dans ce cadre-là. Malheureusement, de temps en temps, il y a des accidents qui se passent.
Oui.
La poussée d'un lâcher d'eau, ça représente quoi ? Est-ce que vous avez une idée de ce que...
Ça dépend des installations, ça dépend des usines et des besoins. En tout cas, ce que nous recommandons et ce que je peux passer comme message, c'est de respecter ces panneaux de signalisation, c'est d'avoir du bon sens. Vous avez par exemple sur les lacs des zones d'interdiction de baignade et de navigation. Donc il faut respecter ces zones d'interdiction. Elles sont matérialisées par des bouées flottantes et des panneaux de signalisation. En rivière, donc vous avez ces panneaux que je vous citais. Et puis bien sûr, il faut rester sur les berges, ne pas s'installer sur d'éventuels îlots qui se trouveraient au milieu de rivières, justement par rapport à tous ces phénomènes que je vous disais. Donc tout ça, ce sont des règles de bon sens. Et puis bien sûr, rester dans une zone où vous avez la possibilité de repli. Voilà, il est important de ne pas se retrouver emprisonné, enfin bloqué par une montée d'eau ou quoi que ce soit.
Donc prudence quand vous êtes dans ces parages et effectivement de bien être informé également. Merci Alexandre, vous restez avec nous tout au long de cette émission.
Merci.
On va continuer notre périple dans les basses gorges, on va partir dans les gorges de Bodinard chez nos voisins du Var. Elles sont situées entre les barrages de Sainte-Croix et Montpezat. La base Yannick est ouverte du 1er avril jusqu'au 15 octobre et c'est Yannick Bernier qui en a la charge.
Yannick Bernier, vous êtes propriétaire de la base Yannick à Montpezat.
On fait de la location et des prestations, balades accompagnées. Étant donné que je suis guide brevet d'état de canoë kayak, discipline associée. La location, canoë, kayak, bateau électrique, pédalo et un petit peu de paddle, mais pas trop parce que chez nous l'eau est froide, donc on loue des paddles que vraiment juillet et août et vraiment pas beaucoup. Et ensuite nos prestations en balade accompagnée qu'on fait en canoë et en bateau électrique tous les soirs en fin d'après-midi sur les couchants et où surtout il n'y a plus personne dans les gorges et c'est tranquille pour tout le monde.
Les gorges de Bodinard sont peut-être les moins connues du Verdon. Elles débutent au pied du barrage de Sainte-Croix.
C'est ça, du barrage de Sainte-Croix jusqu'au barrage de Quinçon. On est sur le moyen Verdon, bas Verdon. On a un site exceptionnel qui sont les gorges de Bodinard qui sont juste en aval du barrage Sainte-Croix où là on a 3 km de gorge qui tombent dans le lac du Cadenon et ensuite on a un petit peu de gorge qui arrive jusqu'à la base. Ce qui nous fait 5 km de balade aller, 5 retours, ça fait une petite balade bien sympathique et surtout ce qui est en aval du barrage de Sainte-Croix avec un mur végétal, des petites cascades d'eau et tout qui reste vraiment préservé et étant donné que l'eau est très très froide, la baignade est interdite, ce qui fait que ça nous préserve quand même du tourisme de masse.
Vous parliez de prestations, ce sont des balades accompagner et vous commentez l'aspect géologique, historique.
Ouais, on fait des balades accompagnées avec un briefing archéo, géologie, l'histoire du Verdon, faune, flore. Comme on est sur un site archéo et que le Verdon, entre le barrage Sainte-Croix et le barrage de l'Esparon, a à peu près 70 sites archéo répertoriés, dont la grotte de la Bonne Baume, hein, qui est mondialement connue. On parle un peu de tout ça, forcément, on fait juste une approche sur la faune, au niveau écologique, de préserver la nature, de faire attention à tout.
La spécificité de ce lieu, c'est un endroit très naturel, la nature est préservée.
On est dans un petit bois et on a essayé de préserver ce cadre de nature. Là, on a fait un grand terrain à pique-nique avec des tables et tout ce qu'on a fait, les chaises et tout, c'est tout en récup avec des palettes. Les tables, c'est pareil, c'est avec des roules. On a vraiment essayé d'intégrer au maximum pour pas que ça dénature le paysage. Et qu'on ait un air sympathique pour que les gens puissent venir pique-niquer le midi, fassent leur balade en canoë, puissent s'arrêter pique-niquer, repartir, passer une journée sympathique.
Pour ce qui concerne l'environnement, est-ce que vous avez des messages à faire passer ou comment faites-vous passer les messages auprès de vos clients ?
Le message qu'on fait passer, c'est de préserver le Verdon. Donc on dit bien à tout le monde, s'ils partent avec leur pique-nique, de tout ramener, de rien laisser sur les bords, de rien mettre dans l'eau, de faire attention à tout ça, de pas se garer au bord de l'eau. C'est vrai qu'on a un site qui est quand même exceptionnel et puis on peut regarder, il n'y a aucun déchet. Et le fait qu'on fasse des balades accompagnées aussi, ça aide beaucoup parce que si jamais on voit un petit sac ou quoi, on va le ramasser. Ce qui évite aux gens de leur donner l'option de laisser un autre papier parce que du coup ils se sont protégés parce qu'il y en a déjà un, d'en mettre un autre. Je pense que ça aide beaucoup. Franchement, on est sur un site qui est super propre. Et le fait qu'on n'ait pas plein de baigneurs aussi, ça aide parce que forcément les baigneurs qui viennent et qui s'installent et qui pique-niquent et qui laissent tout sur le côté, ça. Donc ça, on n'a pas ça, ce qui fait qu'on a quand même un super endroit bien préservé.
On pourra rappeler que le Verdon est interdit à la navigation à moteur thermique.
Ouais, nous on n'a que des moteurs électriques. Hein. Grâce à ça, on n'a pas de nuisance sonore et ni de pollution de l'eau.
Avez-vous un protocole particulier concernant la suite de cette pandémie, les gestes barrières, la distanciation sociale ?
Par rapport au Covid, on a mis en place le matériel pour l'instant, comme on n'a pas beaucoup de monde encore, on l'utilise qu'une fois, il tourne qu'une fois par jour. Et les gilets sont désinfectés à chaque passage, ainsi que les bateaux électriques où on nettoie les volants et les claviers. Et après, l'endroit est assez vaste pour que les gens attendent sans être les uns sur les autres. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de monde pour l'instant et on n'a pas de problème par rapport à ça.
Pour vous joindre, Yannick Bernier.
Numéro de téléphone, donc, c'est 06 08 54 50 02. Sinon, vous allez sur Internet, vous tapez Base Yannick et voilà, vous arrivez sur mon site direct ou sur Google qui vous remet après sur le site.
Vous êtes toujours sur Fréquence Mistral, dernier volet de notre magazine, l'action des éco-gardes du parc du Verdon. C'est une présence essentielle car ils sont à la croisée de toutes les activités, mais en plus, ils sont en contact avec les touristes et visiteurs et leurs conseils sont primordiaux. Stéphano Blanc est chef de secteur ouest des éco-gardes pour le parc. Il est en poste à Esparron.
Stéphano Blanc, vous êtes éco-garde, chef du secteur ouest pour le parc naturel régional du Verdon.
Oui, depuis 11 saisons maintenant, j'occupe le poste à Esparron de Verdon comme chef de secteur ouest des éco-gardes pendant la saison estivale. Ça va de l'embouchure du Verdon avec la Durance jusqu'au pied du barrage de Sainte-Croix. Les lacs Esparron, Montpezat, Saint-Laurent, la Cadenon, les basses-gorges de Quinçon, les basses-gorges de Baudinard et les basses-gorges au-dessus de Saint-Laurent.
Qu'est-ce qu'un éco-garde ?
Nous sommes des agents de sensibilisation, principalement d'information, de protection de sites et des personnes. Nous patrouillons l'été, notamment, principalement sur tous ces secteurs, aussi bien à pied qu'en canoë.
Les gens ont besoin d'informations, on n'est pas simplement en vacances, il faut faire attention à nos régions.
Effectivement, il y a beaucoup de gens en vacances qui n'ont pas conscience de certaines règles élémentaires. Notre rôle est vraiment d'informer, de sensibiliser ces personnes et nous avons aussi une grande part sur la protection incendie puisque maintenant, depuis 2018, nous sommes affiliés à la garde régionale forestière. Nous avons des éco-gardes sur tous les parcs naturels régionaux de la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui sont présents sur le terrain.
Quelles seraient les recommandations que vous auriez à donner ?
La première recommandation, c'est le feu. On est en Provence, on est sujet à des risques d'incendie très importants l'été, du fait de la température, de la sécheresse et du vent, le Mistral notamment, qui quand il est violent, est très difficile à maîtriser si un départ d'incendie se produisait à ce moment-là. Plusieurs recommandations aussi sur le comportement à avoir en randonnée, le fait d'être bien équipé, de posséder des chaussures de qualité, au moins de marche, de l'eau, 2 à 3 litres d'eau, une carte, un téléphone et se renseigner sur les conditions météo avant de partir. Privilégier le matin principalement. Et toujours prévenir où l'on va, surtout si on part sur des sentiers qui ne sont pas très fréquentés. L'été, on a quand même des sentiers qui sont bien fréquentés, mais quand même prévenir toujours.
Lieu essentiel de notre région, le Verdon.
Il y a l'eau c'est dangereux, la baignade aussi, il faut être attentif. Nous préconisons le port du gilet sur les embarcations, aussi bien que ce soit en location ou personnel. Nous demandons aux gens de se baigner aux endroits appropriés, notamment où la baignade est surveillée, de ne pas s'éloigner des berges, et de vérifier aussi la température de l'eau, parce qu'à des endroits elle est vraiment très fraîche, donc ne pas se jeter à l'eau directement et prendre les précautions nécessaires. Toujours se mouiller avant de rentrer dans l'eau.
Concernant les basses-gorges, l'accostage n'est pas toujours permis.
Oui, en fait, depuis octobre 2018, un arrêté interpréfectoral a été mis en place entre les deux départements, Var et Alpes-de-Haute-Provence. C'est l'arrêté de navigation sur les basses-gorges et les lacs entre Baudinard et le barrage de Gréoux-les-Bains. L'accostage est interdit, c'est une zone Natura 2000, donc au niveau de protection pour la faune et la flore. Il est interdit notamment d'accoster, de descendre du canoë, il est interdit de sauter des falaises. Bon, c'est extrêmement dangereux, chaque année on a des accidents graves. Malheureusement, c'est toujours le cas actuellement, il y a toujours des gens qui sautent des falaises, mais c'est interdit. Nous sommes en relation avec aussi bien la gendarmerie que les agents ONF, les agents de l'OVFB, les ASVP des communes. Nous sommes en liaison aussi avec les pompiers, bien entendu, puisque nous avons des radios, nous pouvons appeler les secours dans la foulée. Nous avons une collaboration importante depuis de nombreuses années avec tous les services interdépartementaux, les préfectures des deux départements. Nous faisons des cellules de veille une à deux fois par mois pendant la saison pour voir ce qui s'y passe et voir un peu adapter nos besoins et éventuellement mettre en œuvre certaines modalités. Nous faisons aussi des patrouilles mixtes, aussi bien avec les gendarmes qu'avec ONF et les pompiers pour sensibiliser les personnes. Et en cas de comportement inadapté, les personnes peuvent être verbalisées. Nous patrouillons essentiellement à pied ou en kayak. Sur les secteurs, les criques, les lacs, les basses-gorges et tout autour des plages. Cette année, nous avons eu, en plus de nos équipes de gardes forestières régionales, nous avons eu des éco-gardes communaux, entre guillemets, qui ont été embauchés suite au déconfinement du Covid, où nous avons vu sur le terrain énormément de personnes qui ont fait des comportements inadaptés avec d'abandon de déchets, camping sauvage, des feux, énormément de feux. Donc des renforts ont été demandés par les communes, les financements ont été pris en charge par l'État, la région et les communes elles-mêmes, et ça fait un apport important de 6 éco-gardes en plus sur tout le dispositif du territoire du parc.
À la suite de cette pandémie, le déconfinement a été un peu compliqué. On a constaté dans notre région un certain laisser-aller.
Oui, il y a eu beaucoup de, malheureusement, de déprédation, comme je disais, de feu, d'abandon de déchets, énormément. C'était un peu quand même exagéré, le comportement des gens, un manque de civisme total. On a besoin de reprendre en main un peu ces personnes qui viendraient dans le Verdon et leur expliquer qu'il faut avoir des comportements plus adaptés et faire attention à l'environnement. On n'est pas dans une Luna Park, on est dans la nature, donc il faut respecter certaines règles. Et je rappellerai l'essentiel, c'est de ne pas fumer en forêt, c'est de ne transporter aucun feu, de ne pas faire de feu. Même le camping gaz n'est pas autorisé, tout transport de feu est interdit, c'est le code forestier qui s'applique. Toute l'année d'abord. Et bien sûr, de récupérer ses déchets. Quand on va dans un milieu naturel, ben, on n'oublie pas de ramener ses déchets. C'est très important de ne rien laisser sur place, surtout.
Détail que l'on oublie souvent, les nuisances sonores également.
C'est un nouveau phénomène avec les smartphones et les baffles qui s'est développé ces dernières années. Les gens ne se rendent pas compte, mais ça devient vite la cacophonie. On est appelé souvent à intervenir sur des groupes de personnes et de leur dire que la musique, s'ils veulent l'écouter, c'est bien, mais qu'ils l'écoutent uniquement pour eux, mais pas pour tout le monde. On est dans un site magnifique, au milieu de la nature. Profitez du calme. Vous avez toujours à attendre dans la voiture en retournant dans vos villes respectives, vos villages respectifs, d'écouter la musique.
Stéphane Aublanc, vous vouliez ajouter quelque chose concernant la circulation?
Oui, effectivement, nous sommes dans un milieu naturel et je voudrais rappeler aussi que la circulation motorisée en espace naturel est interdite. Vous ne pouvez circuler que sur des chemins carrossables et utilisables pour une voiture dite normale et s'il n'y a pas de système de fermeture, barrière ouverte ou fermée ou des panneaux B0. D'autant plus que souvent ces pistes qu'on appelle pistes B0 sont des pistes de DFCI, de défense de forêt contre les incendies et qu'il serait regrettable de pouvoir se retrouver coincé au milieu d'un départ d'incendie avec des services de secours qui seraient empêchés de circuler par des véhicules présents sur place. À rappeler, ne pas circuler sur les pistes en milieu forestier, surtout pendant la période estivale. C'est passible d'une amende de 135 €, voire si c'est une circulation hors piste en milieu naturel, là c'est une amende de 5e classe qui peut aller jusqu'à 1 500 € et confiscation due ou des véhicules. Donc c'est un rappel que je tiens absolument à faire parce que nous avons pas mal de problèmes en période estivale en milieu forestier. Sans parler du dérangement de la faune et de la flore, parce qu'au début de l'été c'est la période de reproduction aussi. On a ce dérangement, les ornières, la destruction aussi de faune et de flore surtout, qui peut être préjudiciable. Quoi. On a des espèces quand même, des orchidées qui sont plutôt rares, voilà, et protégées en plus.
Finalement, on pourrait conseiller aux gens de se rapprocher soit du parc, soit des mairies pour prendre des renseignements pour toute activité?
Absolument. Le parc, les mairies, les offices de tourisme. On met à disposition aux offices de tourisme un petit livret en début de saison qui récapitule toutes les recommandations principales à faire, quelles sont les choses à éviter et surtout les choses à ne pas faire en milieu naturel et au bord des lacs en particulier.
Stéphane Aublanc pour les éco-gardes du parc du Verdon et ses belles recommandations pour réussir de belles performances dans les basses gorges du Verdon, mais aussi en respectant toutes les conditions et de sécurité et de préservation du territoire. On arrive à la fin de cette émission. Alexandre Guillot, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais je le dis maintenant, généralement EDF, enfin en tout cas l'eau et l'électricité font pas bon ménage, sauf pour vous.
Oui, nous, ça fait bon ménage, effectivement. Et c'est même indissociable. Ça fait partie de notre quotidien. Nous sommes électriciens de base et nous servons de l'eau pour produire l'électricité. Et puis, durant toutes ces années, comme on a dit tout à l'heure, nous la partageons aussi pour tous ces intervenants et ces partenaires locaux.
Ouais. Quand vous regardez en tant qu'électricien les agriculteurs qui irriguent leurs champs, les touristes qui viennent faire de la planche à voile sur le lac d'Esparron, qu'est-ce que vous ressentez?
À titre personnel, je ressens de la fierté, puisque c'est vraiment un beau métier. On a une région magnifique. Et moi, je suis content de voir que la vie prospère sur le Verdon grâce à la gestion de l'eau, grâce à cette région magnifique. Et il faut que ça continue, il faut que on continue sur cette lancée-là.
Ça pourrait être une petite parole de conclusion, Alexandre?
Oui, bien sûr.
C'est le moment, hein, donc bon.
Oui, pour moi, il faut respecter le Verdon, c'est une belle région et c'est très important. Ouais. Il faut
pas. Merci beaucoup, Alexandre Guillot, pour EDF. Christine Rousseau, il faut aller à Quinçon actuellement, oui. Et puis évidemment, il faut aller dans les basses gorges du Verdon.
Tout à fait, les basses gorges du Verdon, le canyon de Boudinard, qui est un territoire de bien-être et de bien-vivre, qui est riche d'une grande diversité paysagère, propice à la contemplation et à l'émerveillement, où l'on cultive la joie de vivre et où l'on vient se ressourcer, se recentrer sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire notre lien à la nature.
Vous êtes une ambassadrice de ce territoire vous-même.
Tout à fait, oui, oui.
Et avec vos amis de l'Office de tourisme, vous travaillez en liaison avec vos amis qui sont à Oraison, par exemple, à Valensole, à Manosque.
Nous sommes en lien permanent, effectivement.
Donc ça vous permet, c'est un réseau qui est plutôt constructif.
Très constructif, tout à fait.
C'est un plaisir de vous recevoir, Christine, et puis on va vous souhaiter un bon été,
Merci beaucoup.
Dans ce paysage merveilleux. Vous vous rendez compte que vous travaillez dans un endroit où beaucoup de gens viennent passer leurs vacances.
On a le sentiment d'être en vacances toute l'année.
C'est une bonne chose. Merci beaucoup de votre présence, et puis j'en profite aussi pour remercier Marie Baltus de l'Office de tourisme de communautaire et ses amis à l'Office de tourisme de la DLVA, et puis évidemment notre ami Olivier Mouly qui a fait la régie et qui a réalisé les 4 interviews que vous avez entendues. Notre émission sera sur le site internet de Fréquence Mistral, www.fréquencemistral.com. Passez un bel été, et notamment dans les basses gorges du Verdon. À bientôt.
À bientôt, François.